C'est Jérémy. Petit message avant de découvrir votre épisode du jour, pour simplement vous demander un petit coup de pouce en quelque sorte. Je viens de prendre mon téléphone et j'ai remarqué comme quoi je suis uniquement à 12 avis d'atteindre les 200 évaluations sur Apple Podcast. Donc si jamais vous possédez un appareil de chez Apple, prenez quelques petites minutes, si jamais le cœur vous en dit, pour me laisser un avis, idéalement 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, pour m'aider à mieux faire référencer mon podcast. Sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance et sur ce, bel épisode. Allez, c'est parti, nouveau podcast. Je suis Jérémy Coron et vous écoutez actuellement Neuroperformer. Neuroperformer, le seul et unique podcast destiné aux cadres et aux dirigeants qui veulent placer les leviers des neurosciences au service de leur surperformance professionnelle. Alors, avant de commencer l'épisode du jour, qui est une interview passionnante, je tiens à vous remercier sincèrement. En effet, la semaine dernière, j'ai fait un appel à l'action pour vous dire de noter mon podcast, notamment sur Apple Podcast, afin de m'aider à franchir le cap des 90 avis positifs. Sachant que j'étais à 87 avis positifs au moment où j'ai fait cet appel à l'action. À l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, nous sommes à 98 avis positif. Je compte bien maintenant, grâce à vous, dépasser les 100 notes sur Apple Podcast avant la fin du mois de janvier 2021. Maintenant, venons-en justement au podcast de cette semaine. Podcast de cette semaine où je reçois Anthony Lespade, qui est un préparateur mental spécialisé en exercice cognitif et en neurotechnologie. Pourquoi j'ai décidé d'inviter un préparateur mental qui s'adresse aux sportifs à la base sur un podcast destiné aux cadres et aux dirigeants ? L'idée, elle est simple. Durant tout ce mois de janvier 2021, je me suis fixé comme objectif de vous parler des effets de la pratique sportive, de l'activité physique sur la cognition, donc sur la mémoire, sur la communication et sur la capacité également à gérer des problèmes, entre autres. Grâce à Anthony, on va changer de prisme cette fois-ci. On va voir comment la pratique cognitive aide les sportifs de haut niveau à devenir encore plus performant, à gratter les quelques petits centièmes de seconde, par exemple pour un coureur, pour battre sa performance précédente. Et on va voir bien évidemment comment appliquer ces mécanismes-là à des cadres et à des dirigeants au travers d'exercices simples, pratiques, ludiques à faire au quotidien. Et je rebondis rapidement sur cette notion de ludique. En effet, comme on va l'aborder avec Anthony, comme vous le verrez, comme vous allez l'entendre, le côté ludique est très important aujourd'hui pour apprendre, pour mémoriser et pour être plus efficace au quotidien. Notre espèce a toujours appris au travers du jeu. Ce n'est que très récemment qu'on a dissocié le côté professionnel du côté ludique. Mais malheureusement, on se prive d'un gros levier d'apprentissage en faisant ça, en faisant cette distinction-là, en mettant cette scission-là entre le côté pro et le côté ludique. Pourtant, encore une fois, notre cerveau, je le répète, c'est très important, a évolué durant des centaines de milliers d'années pour apprendre au travers du jeu. C'est notamment comme ça qu'apprennent les fauves à chasser. Les fauves, les bébés fauves, quand ils apprennent à chasser, ils le font par le jeu. Ils chassent, ils se challengent entre eux, ils se sautent dessus entre eux, ils jouent pour apprendre. C'est comme ça qu'un enfant apprend. C'est pourquoi replacer le jeu au cœur des sociétés, au cœur des entreprises, au cœur de votre propre apprentissage est clé pour que vous puissiez, vous, encore une fois, être plus performant au quotidien. Voilà, j'en ai déjà dit assez, je pense. Je vous laisse maintenant en bonne compagnie, en la compagnie d'Anthony Lespade. Bonne écoute. Eh bien, bonjour Anthony.
Salut.
Anthony, déjà, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. C'est super de te recevoir ici.
Ben, merci à toi. Merci surtout à toi.
Anthony, pour commencer, bon, je t'ai déjà présenté rapidement en introduction, mais peux-tu te présenter au public et dire ce que tu fais, toi, aujourd'hui ?
Oui, mais je m'appelle Anthony Lespade, j'ai 25 ans, j'habite à Bordeaux. Et je suis préparateur mental du sportif, spécialisé dans l'entraînement cognitif.
Et tu fais ça depuis quand ?
Je fais ça depuis maintenant un peu plus d'un an. Avant, moi, j'étais pas du tout dans l'univers j'étais un petit peu dans l'univers du sport, mais j'étais plutôt dans l'univers du tourisme. Depuis l'âge de 20 ans, je suis guide touristique et j'accompagne des voyages un petit peu partout dans le monde. Et après, je me suis spécialisé dans tout ce qui est voyage polaire et voyage d'aventure.
D'accord. Et qu'est-ce qui t'a conduit justement à passer 100% sur la partie sportive, on va dire ?
Eh bien, déjà, je suis passé un petit peu 100% sur la partie accompagnement de voyages d'aventure. Donc, c'est des voyages sportifs. Et donc, c'était une formation et c'était un boulot que je faisais au Canada. Et ensuite, quand je suis rentré en France, j'ai voulu absolument me former à la préparation mentale. J'étais un petit peu amené sur le sujet quand je vivais au Canada, ce côté un petit peu mentalité anglo-saxonne qu'ont les Québécois, qu'ont un petit peu les habitants en Amérique du Nord et en Amérique, ce côté très développement personnel, leadership, tout ça m'a apporté quelques bases en préparation mentale. Et j'ai voulu absolument me spécialiser dans la préparation mentale en revenant en France et pour pouvoir aussi avoir une autre activité, parce que vivre 100% du métier de guide, c'est assez compliqué. Ça demande un engagement total, ce qui permet très peu de vie privée. Et donc, je voulais absolument pouvoir avoir une deuxième activité. Et j'ai plutôt bien fait, malheureusement, avec la crise du tourisme et ce qui s'est passé avec lié au Covid.
Effectivement, où les pratiques sportives et le voyage sont un peu mis de côté pour l'instant, on va dire.
Ouais, le tourisme s'est totalement effondré. Là, je ne peux plus. Je garde quand même dans l'année des voyages à guider. Je me laisse l'occasion de pouvoir encore pratiquer le métier de guide, mais là, c'est totalement mort.
Malheureusement, oui. On verra quand est-ce que ça revient. Ça, c'est un autre sujet, on va dire. Du coup, la première fois qu'on a échangé ensemble par téléphone, tu m'as transmis ta plaquette de présentation, un peu des prestations que tu proposais aux sportifs que tu accompagnais. Et sur ta plaquette, tu as une phrase qui m'a un peu, pas choqué, mais qui a retenu mon attention plutôt. Phrase qui dit « L'être humain dans le sport de haut niveau semble de plus en plus se rapprocher de ses limites, de mémoire, c'est ça. Et d'après toi, ce qui peut permettre les personnes de battre des records est l'approche cognitive. » Pour améliorer les performances, c'est bien ça. J'ai pas la phrase sous les yeux, mais grosso modo, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Et du coup, pourrais-tu en dire un peu plus sur ça, sur l'approche cognitive et en quoi l'approche cognitive, l'amélioration du cerveau, peut aider les sportifs de haut niveau à se dépasser encore plus, potentiellement à battre des records qui, pour l'instant, ne sont pas battus.
Ouais, c'est un petit peu la phrase d'accroche. Hein. C'est une plaquette d'information. Il faut des phrases d'accroche, mais bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes. On arrive petit à petit au bout des limites physiologiques. Si on parle en termes de recherche, bien sûr, de toute façon, l'être humain regorgera toujours de secrets, mais à l'heure actuelle, en termes de performance sportive et d'optimisation de la performance, tout ce qui est recherche, test, même les emplois sont beaucoup plus développés dans le secteur de la préparation physique, de la recherche technique ou tactique. Ce qui va permettre une telle marge de progression, c'est tout l'inconnu et tout le champ des possibles qu'offrent les recherches sur les capacités de notre cerveau, et pas que dans le domaine sportif, dans le côté médical, l'enseignement et aussi l'entrepreneuriat. C'est ça en fait. Et comme l'historique de la recherche dans le domaine de la performance, est beaucoup plus récente dans le monde du sport et au niveau physique, ça nous donne une énorme marge de progression supplémentaire au niveau cognitif. Mais rien ne nous dit aujourd'hui que les dixièmes ou les centièmes de secondes nécessaires pour battre des records qui restent aujourd'hui non battus vont l'être après des années et des années de recherche supplémentaire en entraînement cognitif, parce que on aborde ce qui est la limite du corps humain, c'est encore un petit peu flou, je vais dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, l'entraînement cognitif va nous permettre d'améliorer des capacités chez les athlètes qui sont vraiment aujourd'hui laissés pour compte. Et c'est tous ces critères qui sont délaissés par certaines personnes que moi je cherche à développer aujourd'hui et que j'utilise des outils neurotechnologiques pour m'aider, qui va me donner après un appui un petit peu plus scientifique et numérique pour quantifier des marges de progression.
Aurais-tu des exemples à donner d'exercices que tu fais faire aux athlètes et de résultats que ces athlètes ont obtenus grâce à ça ?
Grâce aux outils neurotechnologiques ?
Et aux exercices que tu fais pratiquer effectivement, oui.
Alors déjà, il faut dire ce qu'est l'entraînement cognitif et ce que c'est les fonctions cognitives, parce que c'est un petit peu une grosse marmite où on peut utiliser ici et là les l'activité cognitive, l'entraînement cognitif. Donc j'aime bien m'appuyer sur la vraie définition qui est la cognition, c'est l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance et mettent en jeu, par exemple, la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception, l'attention. Et donc, quand on va travailler tous ces facteurs-là avec le sportif, ça ouvre le champ des possibles à énormément d'entraînement. Et donc, moi, de base, je vais passer par une phase phase de test qui va me permettre ensuite de déceler les priorités abordées avec le sportif. Mais et ça dépend des sports. Par exemple, là en ce moment, ben, j'entraîne un boxeur qui va, si on l'espère, participer aux JO de Tokyo. Ben, pour les boxeurs, on va plutôt se focaliser sur le temps de réaction, les réflexes et sa vision périphérique.
D'accord.
Et grâce à ça, j'utilise plein d'outils. Par exemple, j'ai des lunettes stroboscopiques qui vont faire un peu un effet stroboscopique qui va aider le rapport entre la vision et l'esprit, qui va permettre aussi d'occulter un œil. Mais au préalable, il faut faire une phase de test au niveau de la vision pour voir quel œil est dominant. Et ensuite, on va pouvoir travailler avec la dominance de l'œil. On peut travailler aussi avec la fatigue. On va fatiguer les athlètes pour engendrer un petit peu la lucidité et travailler sous baisse de lucidité. J'ai aussi des capteurs qui permettent de pouvoir capter l'activité cérébrale pour pouvoir quantifier des périodes de concentration ou des périodes de méditation. Donc ça va pouvoir les aider et avoir des contenus chiffrés pour les sportifs. En fait, c'est ça que je voulais apporter à mon activité de préparateur mental. Le préparateur mental, il a plein d'outils. Il y a plein de préparateurs mentaux qui utilisent énormément d'outils. Il y a des préparateurs mentaux qui ont des approches un peu plus holistiques que d'autres. Moi, je voulais vraiment me raccorder à la science, au contenu chiffré et pouvoir apporter une base de données aux sportifs. Parce que les sportifs, ben depuis, et surtout les sportifs professionnels, depuis qu'ils sont jeunes, on leur parle uniquement de données, de chiffres, de data. Donc moi, je voulais avoir un petit peu le même langage qu'eux et pouvoir aussi créer, ben, de récolter tout un tas de données que je peux exploiter après avec tous les professionnels du milieu, que ce soit les entraîneurs, les préparateurs physiques, par exemple.
Du coup, c'est très pragmatique comme approche. On est vraiment sur du quantifier, oui. Et puis voir comment on peut faire améliorer les choses.
Exactement. C'est vraiment l'approche, ben, c'est des petits détails. On est là dans les petits détails, on va chercher vraiment les petits détails qui peuvent faire la différence, surtout au haut niveau. Mais après, ce n'est vraiment pas uniquement destiné au niveau, c'est ouvert à tout le monde, à tous les pratiquants.
Donc par exemple, une personne, on va dire sportive du dimanche, façon de parler, qui veut progresser, peut faire appel à toi?
Exactement.
D'accord.
Exactement. Il y a l'entraînement cognitif et la préparation mentale aussi.
D'accord, ça marche. Et en général, les accompagnements que tu proposes durent combien de temps et comment ça se déroule précisément? Quel est le parcours, on va dire, pédagogique des personnes que tu accompagnes?
Ouais. Alors moi, je travaille dans un studio de coaching à Bordeaux et je travaille en étroite collaboration avec les préparateurs physiques. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que l'athlète fait une préparation physique au sein du studio et de la préparation mentale et cognitive. Et donc, il y a une grosse phase de test qui va durer 2-3 séances où là, on va évaluer toutes les capacités cognitives de l'athlète, ses capacités physiques ben, pour le préparateur physique et aussi tout un tas de questionnaires psychologiques du sportif. Pour savoir un petit peu où il en est à l'instant T où il vient me voir. Et après un suivi, ben ça dépend, il y a ça dépend aussi de la fidélité, je vais dire, et de l'alliance qu'on a avec le sportif. Il y a des coachings qui peuvent durer ben tout une saison, deux saisons, voire toute une carrière, et d'autres qui vont durer que 10 ou 15 séances. Ça dépend du problème. Il y a des sportifs qui sont dans un tel niveau d'exigence et d'optimisation de la performance qu'ils ne peuvent pas vivre sans leur préparateur mental et leur entraîneur cognitif parce qu'ils sont toujours à la recherche de performance. Ça dépend vraiment du profil. Mais on est aussi, comme les préparateurs physiques, des personnes qui viennent nous voir et qui nous demandent du one shot, la méthode miracle. Ben, ça n'existe pas. Il faut de la répétition, il faut du travail. Pour pouvoir progresser. Sur 4-5 séances, on va pouvoir lever quelques barrières, mais bien sûr, il faut un peu plus que ça pour pouvoir augmenter ses performances en termes de préparation mentale et aussi d'entraînement cognitif. Il va y avoir du travail aussi à effectuer à la maison.
Et donc, si je résume toujours beaucoup sur la partie adaptative un peu du cerveau, pour que la personne puisse justement sortir un peu de la zone de confort, tu la challenges par rapport à ça,
ouais.
Pour que le cerveau et l'organisme répondent présent, développent des compétences, des circuits neuronaux, afin qu'elle soit plus compétente par la suite. On est OK.
Exactement.
Super,
C'est
passionnant.
exactement.
Passionnant.
Ensuite, oui, c'est sûr. Après, le terme sortir de sa zone de confort, c'est un petit peu aussi un business maintenant.
Oui.
Tout le monde, des fois, l'utilise un petit peu à tort et à travers. C'est devenu la punchline un petit peu du coaching. Ça n'en reste pas moins quelque chose de super efficace quand il est utilisé intelligemment, au bon moment et surtout au terme d'un suivi contrôlé, quoi.
Oui, effectivement, c'est pas directement demain tu prends une douche froide d'entrée de jeu, c'est qu'il va progressivement, tranquillement, le temps que le corps s'adapte, c'est sûr. C'est pas
C'est
brusquer la
ça,
personne, c'est vraiment
exactement.
trouver un peu du confort dans la confort en quelque sorte.
Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, des fois, il y a des personnes qui vont l'utiliser à tort et à travers. Ben, faut que tu sortes de ta zone de confort. Ouais, tu sors jamais de ta zone de confort. Ouais, mais c'est bien beau. Mais voilà, il faut mettre en place des choses, des protocoles, un programme. Et c'est pour ça que c'est un outil très puissant, mais il faut bien l'utiliser.
Faut qu'il soit encadré. C'est vrai.
Ouais.
Ça marche. Moi, sur mon podcast, comme tu le sais, je m'adresse avant toute chose à des cadres, à des dirigeants qui veulent être plus performants au travail, ce que j'appelle moi la surperformance en quelque sorte. Je parle pas spécialement aux sportifs, en tout cas pas de prime abord. Et du coup, ce qui m'intéressait de savoir, c'est si ce que tu proposes toi aux sportifs peut être appliqué aux cadres et aux dirigeants pour être plus performants au travail, justement.
Bah oui, tout à fait. Comme tu l'as dit, la base c'est la même, c'est la surperformance, l'optimisation de la performance, être meilleur, plus vite, plus rapidement, comprendre plus rapidement, traiter plus rapidement l'information. En fait, on va juste changer le sujet, on va peut-être passer d'un match de basket ou d'un match de foot à réussir une réunion, réussir un entretien ou n'importe quoi. C'est sûr que tout le monde n'a pas besoin de baisser au maximum son temps de réaction et d'avoir des réflexes aussi vite et aussi rapides que l'ont besoin les boxeurs. Mais la capacité à traiter rapidement l'information ou alors travailler, par exemple, sa fatigue mentale due à une surcharge, est idéale, mais aussi dans le cadre de l'entrepreneuriat et professionnel, c'est intéressant d'allier ça à une préparation mentale. Je pense peut-être que pour les dirigeants, le but, ce n'est pas de gagner un match ou de réussir le match, la réunion, mais au contraire, de plus tenir sur le long terme, d'avoir plus une vision carriériste. Et donc, c'est sûr qu'un suivi en préparation mentale spécialisé dans l'entrepreneuriat, ça va reposer sur trois grands principes, qui est l'acceptation, la lucidité, le focus. Et après, on va faire l'entraînement cognitif. On va essayer de rechercher l'équilibre. Donc, au cours du suivi, comme je t'ai parlé, on va faire la phase de test, ce qui va être en sorte une sorte de bilan de compétences. Et petit à petit, on va passer d'étape en étape pour pouvoir déceler la zone de travail ou améliorer, donc via des exercices, des entraînements pratiques, des entraînements à faire à la maison. Et en gros, on va essayer de valider des domaines. Donc, c'est sûr que tout le monde n'a pas le même résultat dans tous les domaines, mais ce qu'on va venir chercher, c'est l'équilibre. L'équilibre un petit peu dans tous les domaines de traité. Et une fois l'équilibre trouvé, c'est vraiment très puissant. La personne se sentira déjà beaucoup mieux dans son travail, dans sa vie ou dans son sport. Et une fois qu'on a les fondations vraiment de solides, l'équilibre est là, on a remis un petit peu d'équilibre, on peut commencer l'entraînement cognitif dans le but d'améliorer la performance. Mais c'est vraiment ouvert à tout le monde, c'est pas uniquement que dans le sport. Et d'ailleurs, il y a des outils, des applications, il existe plein de choses à l'heure actuelle qui sont pour tout le monde et pas uniquement orientées sport.
Des applications qui sont réservées pour des gens professionnels, on va dire, ou des applications que des gens comme moi peuvent avoir chez eux. Est-ce qu'il y a
Oui,
les deux?
ouais. Ouais, exactement. Ouais, il y a les deux. Il existe énormément de choses. Il existe énormément de choses. Ça peut être, ben voilà, il y a, en fait, tout entraînement cognitif peut être très facile à réaliser. Rien que par exemple des mots croisés ou du sudoku, ça peut être mis comme un entraînement cognitif. Bien sûr, maintenant, il y a le format numérique que les applications peuvent nous permettre d'avoir, qui sont des outils très bien et qui a un aspect aussi ludique. Mais on peut vraiment faire de l'entraînement cognitif assez facilement.
Et typiquement, une personne qui veut améliorer sa gestion du stress, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, elle, au quotidien pour s'améliorer justement, pour que son cerveau soit moins réceptif au stress?
Alors, pour le stress, qui est un peu le fléau, il va y avoir la méditation, qui est un outil très, très puissant, la méditation. qui va permettre de se mettre face un petit peu à ses émotions, à travailler son acceptation de ses émotions. Et sinon, ben moi, ce que j'ai l'habitude de proposer à mes sportifs, c'est le stress, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Il faut vraiment différencier stress et être vraiment dans un état anxieux au quotidien. Le stress, ça va être vraiment un état physiologique, un signal du corps qui va dire, OK, ben par exemple, avant une compétition, moi, je suis le corps et je t'envoie du stress pour te dire que je suis prêt, mon gars. Moi, ton corps, il est prêt physiologiquement, je suis prêt et je t'envoie cette information de stress-là pour te le dire. Et donc après, pour être meilleur, il faut s'entraîner sous stress. Il faut essayer de se mettre dans des situations de stress pour arriver à combattre ce stress-là. Mais sinon, l'outil le plus facile à mettre en place, c'est de commencer à méditer et aussi travailler les bases qui va être tout ce qui est respiration.
J'allais venir justement, est-ce que tu ne penses pas que la cohérence cardiaque est une meilleure porte d'entrée que
Ouais.
la méditation quand même, qui est plus compliquée, qui est plus qui fait plus peur aux gens de façon générale. Alors que la cohérence cardiaque, c'est 5 minutes, 3 fois par jour maximum, et c'est très simple à mettre en place.
J'ai eu beaucoup de soucis en fait à vraiment casser les barrières limitantes par rapport à la méditation. Des fois, je n'utilise même pas la terre méditation, j'utilise période de concentration, on va travailler ta concentration. Parce que le problème, c'est que dès qu'on utilise le mot méditation, des fois, pour des personnes peut-être un peu terre à terre, on va passer
C'est un peu
pour des
ésotérique.
gourous. Voilà, des gourous, des moines tibétains, tout ça, alors que non, vraiment, la méditation, et ça a été prouvé par des scientifiquement, par des EEG quantitatifs, qu'il y a vraiment du changement qui se produit. C'est vraiment un outil puissant, la méditation, et c'est le meilleur moyen aussi de faire un peu le point avec soi-même, de se reconnecter à l'instant présent. Mais c'est vrai que la cohérence cardiaque peut permettre aussi davantage une entrée un peu plus en douceur dans ce milieu-là. Et la cohérence cardiaque, c'est un outil très puissant. On a juste à suivre et coordonner sa respiration. Et vraiment, la cohérence cardiaque, c'est un outil que j'utilise et je le recommande énormément. Il y a des applications, mais sinon, juste sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque. Et si vous voyez une petite vidéo avec une boule, par exemple, ben, vous pouvez essayer déjà avec ça. Ça va vous donner un petit peu les bases de la cohérence cardiaque.
Oui, si tu as la cohérence cardiaque, pour les gens qui ne le savent pas, c'est une respiration, on va dire, lente et contrôlée. Généralement, on est sur 5 à 6 secondes en inspiration et pareil en expiration. L'idée est réellement de, justement, d'être actif par rapport à ça et de se concentrer un maximum sur la gestion de sa respiration. Et là, c'est intéressant parce que la méditation est assez passive en soi. La méditation, on est censé attendre, gérer ses émotions, essayer de ne penser à rien, ce qui est très compliqué en soi. Alors que la cohérence cardiaque, justement, induit une action de sa part. Donc, c'est plus simple à tenir, en tout cas
Ouais.
au départ.
Exactement. Exactement. C'est pour ça que si vous voulez vous lancer dans la méditation, faites de la méditation guidée. Ne vous lancez pas dans une
Oui.
méditation libre comme ça dès le début. Il y a des applications là aussi, ou même sur YouTube, il y a l'application Petit Bambou qui est très bonne, qui a énormément de thématiques. La méditation, il y a vraiment des protocoles d'entraînement comme on peut avoir des entraînements physiques. Par exemple, il y a le scan corporel, il y a des méditations un peu plus poussées sur la respiration, un petit peu plus poussées sur les sens. Il y a énormément de thématiques dans la méditation, mais c'est très dur et ça peut être très déroutant de se lancer dans la méditation libre. Vous pouvez perdre vos moyens et ne plus revenir vers cette pratique-là, et c'est ça qui est dommage.
Petit Bambou est très très bien fait, effectivement. Il y a un gros parcours d'initiation au départ. Il y a plusieurs thématiques, comme
Ouais,
tu dis,
c'est ça.
différents intervenants aussi. C'est là que c'est intéressant parce que certaines voix vont nous parler, d'autres pas. Il y a les méditations qui sont actives en marchant aussi. C'est une très très bonne application. Je m'en sers quotidiennement, donc c'est vraiment super. Effectivement, les effets sur le cerveau sont passionnants et sont prouvés, encore une fois, comme tu l'as dit.
Exactement. Puis Petit Bambou, voilà, comme tu l'as dit, il y a la période un petit peu d'initiation qui est totalement
En
gratuite.
plus.
Je crois que c'est 7 ou 8 séances qui va vous permettre déjà d'avoir un éventail de ce que peut être la méditation. Et ensuite, après, c'est un abonnement pour débloquer toute l'application. Mais déjà, rien qu'avec les 7-8 séances, ça va vous faire déjà une idée. Vous allez déjà pouvoir bien vous initier à la méditation.
Et même l'abonnement en tant que tel n'est pas si cher que ça, c'est 5 € par mois, je
Ouais.
crois, donc c'est assez ridicule pour les bénéfices que ça apporte. Et tout le
Ouais.
monde a 10 minutes devant soi pour méditer tous les jours.
Oui.
C'est sûr, il faut les prendre, c'est tout. Ok.
Ouais, exactement.
Et donc, du coup, tu familiarises tes sportifs à la méditation, alors, de façon un peu détournée, mais c'est un véritable outil dont tu te sers toi au quotidien pour les aider.
Ouais,
Ok.
exactement. Donc là, je vais utiliser un bandeau d'analyse de l'activité cérébrale pour pouvoir quantifier leur période de méditation. Donc ça va être une application qui est directement reliée au bandeau. Donc c'est un petit peu une immersion dans la nature avec des bruits de la nature. Et quand notre méditation est agitée, ben, la nature que l'on entend va être agitée elle aussi. Et donc il y a tout un système de points à récolter qui nous permet de quantifier cette période de concentration. Et après là aussi, ben, le champ des possibles est très ouvert. Je vais travailler des méditations classique, mais aussi des méditations mises à l'effort. Donc, je vais fatiguer mon sportif, je vais lui faire faire énormément de cardio ou d'activité physique avant. Et après, on va avoir la faculté qu'il a se concentrer et avoir un retour au calme malgré l'effort subi. Ou alors, je vais le mettre sur un tapis d'acupuncture qui va lui envoyer les signaux de la douleur. C'est un tapis qui fait un petit peu mal. Et là, on va voir la capacité qu'il a à faire des barrières par rapport aux pensées parasites de la douleur et rester concentré.
Le côté un peu résilience du coup. Super.
Exactement, ouais, c'est ça.
Et outre la méditation, les mots fléchés, les mots croisés, t'as d'autres exercices que des gens, on va dire, non sportifs pro et cadres et dirigeants d'ailleurs, peuvent faire chez eux pour s'améliorer sur, encore une fois, le stress, la gestion des émotions, la prise de parole en public, l'angoisse ou autre, la mémoire aussi.
Exactement. Alors, si on parle d'entraînement cognitif, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matériel. Si on joue un petit peu au niveau sportif, on peut juste se munir d'une balle, d'une feuille, de deux, trois applications mobiles. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est la multitâche. En fait, par exemple, vous allez être en train de travailler. Eh bien, travaillez sous plusieurs tâches, ouvrez plein d'onglets sur votre PC, mettez de la musique perturbante en fond sonore, lisez un livre en même temps, et ensuite écrivez vos résultats. Par exemple, qu'est-ce que vous avez retenu de l'histoire du livre? Quelles sont les musiques qui sont passées? Les tâches que vous avez faites dans la journée? En fait, vous allez vous entraîner à déplacer votre attention simultanément sur une tâche et une autre. Bien sûr, voilà, il faut le faire intelligemment, ne faites pas ça le moment où vous avez la réunion ou la journée la plus importante de la semaine. Mais déjà, d'entraîner à déplacer votre attention simultanément, ça va vraiment vous aider.
Super. Moi, j'utilise au quotidien une application qui s'appelle Peak. Je crois que tu connais de mémoire. T'en penses quoi? Donc, c'est une application où tu regroupes plusieurs jeux mentaux, axés sur
Oui.
le calcul mental, sur la gestion des émotions, sur la logique, sur le vocabulaire, le raisonnement et autres. Ça prend environ un quart d'heure par jour. Je fais ça tous les jours depuis des mois et des mois. Du coup, t'en penses quoi, toi, avec ton recul et ton expérience, tous les outils que t'as à disposition?
C'est très bien. Franchement, c'est très bien. On en avait parlé la première fois quand c'était au téléphone. Cet univers-là d'entraînement un petit peu cérébral, ça avait été dévoilé au grand jour par l'entraînement du docteur Kawashima, si
Sur Nintendo
je le
DS,
prononce
sur 3DS, effectivement, à
bien.
l'époque, je m'en souviens encore, je l'avais.
C'était ça. Et non, Pic, c'est très bien. En fait, il existe énormément d'applications d'entraînement cérébral. Celle que je préfère, c'est celle où il y a plusieurs thématiques, comme tu l'as dit dans Pic, et celle où on peut avoir un retour et des statistiques sur notre entraînement et pouvoir quantifier notre marge de progression. Et ensuite, en fait, dès qu'on a cette application-là qui nous permet un éventail d'entraînement, eh ben, c'est à nous et notre propre créativité de nous mettre en situation. Par exemple, des fois, on peut faire un protocole par rapport à la lucidité. Eh ben, on va faire cet entraînement-là juste après être parti courir. Donc là, on va voir par rapport à notre fatigue, comment on va réagir par rapport à ces jeux-là. On peut le faire plutôt le matin ou le soir juste avant de dormir pour voir comment on réagit par rapport à cette période-là. Il y a énormément de multitudes de choses à faire et de situations où on peut se mettre pour s'entraîner.
Mais tu vois, justement, j'ai Peak sous les yeux, là, je regarde un peu les catégories proposées. Et tu as effectivement des catégories par exercice et par, comment dire, par contexte. Tu as par exemple un truc
Oui.
adrénaline pour gérer le stress, un
Oui.
truc endurance, etc. Tu vois. Effectivement, ils prennent ça en
C'est
compte
ça
aussi de leur
qui
côté, c'est intéressant.
Exactement, elles sont bien faites, ces applications, par exemple, pour tout ce qui est gestion du stress, un peu plus rapide à faire, qui demande un peu moins de réflexion pour mettre le facteur du stress. Mais voilà, après, tout est situationnel. Si on décide, par exemple, de faire cet entraînement-là en se mettant de la musique qui va nous déconcentrer dans les oreilles, ben, là aussi, on va s'entraîner encore plus à pouvoir gérer les pensées parasites, par exemple, et le stress sonore qui peut être mis.
Et ce qui est bien également, c'est cette notion effectivement de stats dont tu as parlé, de comparaison avec les autres aussi. Alors comparaison, c'est mon plus un challenge, mais tu peux te comparer à des panels de personnes. Par exemple, par rapport à ta
Exactement,
profession, par rapport à ton âge, il y a un côté qui est très gamifié aussi, avec des badges. C'est super intéressant, c'est très ludique, c'est très bien fait. Vraiment, ça incite à le faire. Et vraiment, c'est très très bien pensé. Donc je peux
c'est
qu'encourager les personnes à le
ça,
faire.
exactement. Je reviens sur le côté ludique. Tout ce qui est entraînement cognitif, ça peut paraître très ludique d'un regard extérieur. Des fois, on peut avoir des sportifs qui viennent et qui disent, ah, ben, ça va être la récré, ça va être très ludique. Mais pas du tout. C'est sûr que les supports sont rendus ludiques, sont rendus gaming, mais il y a vraiment du travail qui est effectué et du gain dans ces entraînements-là. Mais comme on le sait aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui va être plus tourné vers l'e-sport va avoir des capacités cognitives peut-être presque au-dessus d'un boxeur. Donc voilà, il y a cet aspect ludique, mais il y a vraiment du travail qui est effectué. Et comme tu parlais des canaux neuronaux qui sont là, et ensuite, ça dépend de ce qu'on en fait, en fait. Par exemple, moi, quand j'ai un boxeur, ben, c'est sûr que le boxeur, ben, c'est inné pour lui, la boxe. Ça passe en second plan. Donc après, ça va être à moi à créer un exercice pour le sortir un petit peu de sa zone de confort, pour le faire réfléchir un petit peu et pour essayer de rentrer le plus vite possible dans la zone d'hyper-apprentissage. Et c'est là que je rentre dans l'entraînement sous multitâche, en fait. J'ai mon exercice de base. Après, j'ajoute une difficulté supplémentaire. Donc là, il y a déjà une adaptation. Je rajoute une tâche, une autre tâche, une troisième tâche. Donc, il y a plusieurs tâches à effectuer dans l'exercice. Et en fait, je vais vraiment aller chercher le bug, le moment de surinformation où le sportif va être là. Ah, qu'est-ce que je dois traiter en premier? Et selon les sports, c'est très important de traiter ça. Par exemple, le MMA ou la boxe, mais ce moment de bug, mais tu ne peux pas l'avoir dans le ring parce que c'est fini sinon.
Et ça, on le voit très bien sur les vidéos que tu proposes sur YouTube.
Ouais, exactement. Mais c'est comme tu l'as dit, c'est l'adaptation, hyper-apprentissage, neuroplasticité qu'on va rechercher.
Et je rebondis rapidement sur cette notion un peu ludique que les gens critiquent. Aujourd'hui, on a fait une vraie scission entre le monde du travail et puis le jeu, alors qu'on est fait
Oui.
pour apprendre dans le jeu. C'est ça qui est terrible. Le cerveau est fait pour apprendre en jouant et en s'amusant. Il suffit de voir un peu les
Ouais.
fauves, comment ils apprennent à chasser leurs enfants pour le voir. C'est que par le jeu. Les primates, c'est pareil.
Oui.
Et nous, on s'est coupé de ça, malheureusement. Aujourd'hui, tout doit être très scolaire, très cadré, très pragmatique, alors qu'on apprend en jouant factuellement. Et c'est un peu ce que l'école Montessori, c'est de remettre un peu sur le devant de la scène.
Ouais.
Donc, il faut arrêter de croire que
Ouais.
des choses un peu colorées avec des badges, des jeux, des scores desservent l'apprentissage. Au contraire, ça favorise l'apprentissage.
Exactement, j'aurais pas mieux dit.
Et ben, nickel. Également, aurais-tu d'autres conseils à donner pour encore une fois, des cadres, des dirigeants qui veulent s'améliorer? On a parlé un peu de cohérence cardiaque, on a parlé de sudoku, on a parlé un peu de sport aussi. Est-ce qu'il y a de méditation également? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'ils peuvent faire, par exemple, un peu au bureau, par exemple? Je sais que méditer au bureau, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des exercices, des éléments? Peut-être pas, hein.
Alors, si on part vraiment sans matériel, la méditation va être vraiment l'outil le plus puissant. Au bureau, ben, si on a fait, il y a tout l'éventail de jeux cognitifs, d'entraînement cognitif, pardon. Après, ça va être de s'entraîner à déplacer son attention. Déjà, vous pouvez vous entraîner aujourd'hui et avoir la lucidité, et c'est très important avant de commencer quoi que ce soit, de jauger votre attention. On a une attention limitée dans la journée, et déjà, vous pouvez prendre le temps de noter quand c'est que votre attention baisse. Qu'est-ce qui peut faire baisser votre attention? à quel moment de la journée vous vous sentez le mieux. Déjà, rien qu'évaluer ça, ça va vous permettre d'avoir des bases solides pour commencer un entraînement collectif. Et c'est pas facile déjà de déceler ça. Ça demande assez, quand même pas mal de lucidité sur ce qu'on fait au quotidien.
Ok, super. Dans un de mes programmes avancés, moi j'ai mis en place un protocole où les gens mettent sur leur téléphone une alarme toutes les 1h30. Justement pour quantifier un peu le niveau d'implication, le niveau de fatigue physique,
ouais,
et le niveau un peu d'éveil intellectuel, pour justement voir des patterns potentiellement au cours de la journée. Et justement, grâce à ces patterns-là, mettre en place un protocole de productivité beaucoup plus efficace. En se disant, par exemple, entre 15h et 16h, c'est pas possible pour moi. Je suis pas concentré. Du coup, je fais une tâche qui demande pas de concentration. Par contre, entre 9h et 11h, là, je suis au taquet. Je l'ai remarqué parce que je l'ai évalué. Alors là, je déploie toute mon énergie pour faire une tâche importante. Donc, ça peut être une solution de faire ça, par exemple, mettre en place un chronomètre, un minuteur, et puis de quantifier tout ça.
Ouais.
Ok.
Ouais. C'est exactement ça. Et c'est toute cette phase un petit peu de test qui est très importante, en fait.
Ok. Génial. Je t'ai posé la question que je vais te poser, Anthony. Est-ce que tu as d'autres choses à évoquer de ton côté?
Moi, ça me paraît complet.
Si les personnes ne le feraient pas à toi, comment ça se passe? Du coup, tu es basé à Bordeaux, tu te déplaces en France. Après, c'est un peu compliqué en ce moment, j'en ai conscience, mais tu fais les choses à distance potentiellement?
C'est un peu compliqué. Alors, si une personne fait appel à moi, moi, je me déplace dans la région Grand Sud-Ouest. Donc, ça va aller de, on va dire, Biarritz, vraiment limite frontière Pays Basque, Nantes, et après bien sûr Bordeaux me donne la faculté d'être à 2 heures de Paris, donc tout ce qui est région parisienne et aussi région PACA autour de Marseille. Mais sinon, je travaille avec une application cognitive en fait qui me permet de pouvoir programmer des entraînements cognitifs via un logiciel à distance. Donc moi j'ai mon support de coach qui permet de planifier des séances à distance et qui me permet aussi de récolter toutes les statistiques, les temps passés sur l'application, le temps de réaction, toutes les statistiques qui me permettent d'évaluer l'entraînement cognitif à distance. Sinon, pour tous les sportifs de la région bordelaise, je les reçois au sein du studio de coaching expert sportif où là, je travaille en collaboration avec des préparateurs physiques qui vont être spécialisés dans le basket, dans les sports de combat, dans le football.
Ok, super, génial. Et je mettrai bien évidemment en description les informations, ta plaquette également, qui est très bien faite,
ouais,
avec la fameuse phrase d'accroche marketing au début. Et également, les vidéos YouTube qui sont en lien à la fin de la plaquette et qui montrent réellement précisément ce que tu fais toi. Et c'est assez impressionnant d'ailleurs, notamment le basketteur qui fait les dribbles sur un bossu inversé pour l'équilibre, tout en touchant des formes.
Totalement dans la triple triple.
C'est impressionnant à voir. C'est impressionnant à voir. Donc effectivement, c'est assez bluffant. Donc allez voir ça, allez consulter ça. Si jamais vous êtes proche de Bordeaux, allez contacter Anthony pour faire un petit débrief et puis un petit test avec lui.
Puis après, quand tout ça sera fini, un petit peu cette situation de sanitaire, ces déplacements partout en France.
Oui. Puis moi, j'irai te voir limite pour faire un petit test aussi. Ça peut être sympa à l'occasion.
Avec grand plaisir.
En tout cas, merci pour tout.
Ben merci à toi en tout cas de m'avoir reçu dans ton podcast, ça me fait vraiment plaisir.
Et plaisir partagé, puis à très vite surtout.
Ouais, à très vite.
Salut.
Salut.
Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura autant plu à écouter que moi j'ai pu prendre de plaisir à l'enregistrer avec Anthony. Réellement, mettez encore une fois au cœur de votre recherche de performance l'activité physique. Mettez au cœur de votre réussite professionnelle la pratique d'un sport. Sans cette complémentarité-là, vous ne parviendrez jamais à exploiter pleinement votre potentiel, pleinement le potentiel de votre cerveau. Sortez de cette zone de confort, sortez de l'escalator, sortez de l'ascenseur, prenez l'escalier, marchez, courez, faites du vélo, bref, faites du sport. Votre cerveau, votre humeur, votre physique, votre mental ne pourront que vous en remercier, croyez-moi. Et maintenant, je fais un appel à l'action à nouveau pour les derniers qui m'écoutent jusqu'à présent. Si vous m'écoutez encore après plusieurs minutes de podcast, plusieurs dizaines de minutes de podcast, c'est que ça vous a plu et c'est que vous pouvez donc m'aider potentiellement à franchir cette barre symbolique des 100 avis sur Apple Podcast. Pour ça, cliquez en description, il y a un lien. Vous renvoyant sur ma page personnelle sur Apple Podcast, il suffit que 2 personnes parmi vous le fassent pour que l'on puisse atteindre enfin ensemble cette barre des 100 avis. Et maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui conclura cette série de podcasts sur le lien entre sport, cognition, activité physique et performance professionnelle. Belle semaine à vous. Ciao.